Pourquoi tant de nos hypothèses de base sur les motivations humaines sont erronées? Je pense qu'aucun frisson pouvant traverser le cœur d'un humain n'est comparable à ce que ressent un inventeur lorsqu'une création de son esprit se réalise avec succès. De telles émotions font oublier à un homme la nourriture, le sommeil, les amis, l'amour. Nikola Tesla. Si l'argument que nous venons de développer est juste, il nous faut réviser notre interprétation du problème rencontré par Eric. Peut-être était-il en fait insuffisamment préparé à l'absurdité du monde du travail moderne. Il était passé par l'ancien système d'éducation, dont il subsiste quelques vestiges, celui qui visait à former les étudiants à faire effectivement des choses. Cela avait suscité en lui de faux espoirs, d'où ce choc, ce désenchantement qu'il ne parvenait pas à dépasser. Admettons. Cependant, je crois que son histoire nous livre un enseignement plus profond. Eric était mal préparé à supporter l'insignifiance de son job, un aspect que tout le monde, ou presque, considère comme un désagrément dont il faut prendre son parti. En même temps, nous sommes tous éduqués dans la conviction qu'une personne grassement payée à se tourner les pouces devrait être enchantée de sa situation. Revenons à notre problème initial et demandons-nous pourquoi nous estimons qu'une personne payée à ne rien faire devrait s'estimer heureuse. Sur quoi repose la vision de la nature humaine dont découle une telle hypothèse? Évidemment, il faut aller chercher du côté de la théorie économique celle qui a transformé cette idée en science. Selon la théorie économique classique, l'homo economicus, le modèle sur lequel sont construites l'ensemble des prédictions formulées par cette discipline, est mu prioritairement par un calcul coût-bénéfice. Les équations mathématiques que brandissent les économistes pour éblouir leurs clients, le public, sont fondées sur ce postulat élémentaire. Tout être humain, livré à lui-même, choisira la ligne de conduite qui lui procure la plus grande quantité de ce qu'il convoite au prix de la plus faible dépense en ressources et en efforts. La mise en équation est rendue possible par la simplicité même de la formule. Si l'on devait reconnaître que les humains ont des motivations complexes, le nombre de facteurs à prendre en compte serait trop élevé. Il serait impossible d'évaluer correctement leurs poids respectifs et on ne pourrait pas faire de prédictions. D'où cette justification que l'on entend souvent dans la bouche des économistes. Bien entendu, tout le monde sait que les êtres humains ne sont pas réellement des machines à calculer égoïstes, mais le fait de les supposer tels permet de rendre compte d'une large part de leurs actions. Cette part, et cette part uniquement, constitue donc l'objet de la science économique. C'est une déclaration acceptable jusqu'à un certain point, car il y a un problème. Cette hypothèse est manifestement invalide pour beaucoup d'aspects de la vie humaine, dont plusieurs relèvent précisément de ce qu'on appelle l'économie. Si le postulat mini-max, minimisation des coûts, maximisation des bénéfices, était fondé, des gens comme Eric seraient enchantés de leur sort. Ils gagnaient gros en échange de dépenses quasi nulles en ressources et en énergie. Disons que cela se limitait aux tickets de bus et aux calories qu'il brûlait en arpentant les bureaux et en répondant à 2 appels par jour. Pourtant, ce que l'on observe, c'est qu'une telle situation rend malheureux à peu près n'importe qui. Les autres facteurs, classe sociale, attente, personnalité, etc., déterminant seulement à quel point il l'est. Notre discours public sur le travail entérine très largement le modèle de l'homo economicus. Tout le monde doit être forcé à travailler. Et l'aide humanitaire destinée à éviter aux pauvres de mourir de faim doit être distribuée de la façon la plus humiliante et la plus coûteuse possible, faute de quoi ces derniers deviendront dépendants et n'auront plus d'incitation à trouver du boulot. L'hypothèse sous-jacente est que tout individu se voyant offrir la possibilité de vivre en parasite la saisira à coup sûr. Or, la quasi-totalité des preuves disponibles sur le sujet indique le contraire. Certes, les êtres humains apprécient généralement peu le labeur qu'ils considèrent comme excessif ou dégradant. Rares sont ceux qui acceptent avec joie de se plier au rythme et à l'intensité que les tenants de l'Organisation scientifique du travail ont décrété comme étant la norme à partir des années 1920. Ils ont aussi une certaine aversion pour les situations humiliantes. Pourtant, livrés à eux-mêmes, tous ou presque rejetteront avec encore plus de vigueur la perspective de n'avoir rien d'utile à faire. Les preuves empiriques allant dans ce sens sont innombrables. Il nous suffira ici de prendre un ou deux exemples particulièrement parlants. Ainsi, les ouvriers qui deviennent multimillionnaires après avoir gagné au loto quittent rarement leur job, ou bien s'ils le font, ils disent le regretter peu de temps après. Et que dire des prisonniers nourris et logés gratuitement sans être soumis à l'obligation de travailler? Dans l'univers carcéral, la confiscation du droit au travail, qu'il s'agisse de repasser des chemises à la blanchisserie, de récurer les latrines au gymnase ou d'emballer des ordinateurs pour Microsoft à l'atelier, est utilisée comme une punition, y compris lorsque le travail n'est pas rémunéré ou que les prisonniers ont d'autres sources de revenus. Rappelons que nous parlons là des individus qui peuvent sans doute passer pour les moins altruistes produits par la société. Eh bien, à leurs yeux, être obligé de rester assis devant la télé à longueur de journée est un sort plus terrible que fournir l'effort le plus pénible et le moins gratifiant qu'on puisse imaginer. Comme le soulignait Dostoïevski, le travail carcéral a une dimension salvatrice. Au moins, il est utile, même si ce n'est pas au prisonnier lui-même. Un des rares effets secondaires positifs du système pénitentiaire est qu'il illustre les conséquences comportementales que peuvent avoir les situations de privation extrême, nous enseignant quelques vérités sur la nature humaine. Ainsi, nous savons désormais que placer des détenus à l'isolement pendant plus de 6 mois d'affilée provoque inéluctablement des dommages cérébraux qui auront des répercussions physiques visibles. Oui, les êtres humains sont des animaux sociaux et ils le sont de manière si viscérale que coupés de toute relation avec d'autres humains, ils commencent à se décomposer physiquement. Ce qui se passe au travail peut être interprété de façon similaire. Peu importe que les humains soient faits ou non pour une discipline de travail régulière de 9h à 17h, tout semble indiquer qu'ils ne le sont pas. Le fait est que, même pour les criminels les plus endurcis, la perspective de n'avoir absolument rien à faire est encore pire. Pourquoi en est-il ainsi? Ces dispositions sont-elles profondément enracinées dans la psychologie humaine? Nous avons de bonnes raisons de penser que c'est le cas. En 1901, le psychologue allemand Karl Gross a fait une découverte. Les enfants en bas âge éprouvent un bonheur extraordinaire quand ils se rendent compte qu'ils peuvent avoir un effet prévisible sur le monde, quelle qu'en soit la nature, et qu'il leur soit bénéfique ou non. Ils bougent leurs bras au hasard, et voilà qu'ils ont déplacé un crayon. En plus, ils peuvent reproduire cet effet en répétant le mouvement. S'ensuivent des manifestations de pur contentement. Gross suggérait que cette « joie d'être cause », selon l'expression qu'il avait forgée, était à la base du jeu, qu'il définissait comme consistant à exercer ses pouvoirs pour le plaisir. Cette découverte a des implications fondamentales pour la compréhension des motivations humaines au sens large. Avant Gross, la plupart des philosophes politiques occidentaux, imités par les économistes et les sociologues, expliquaient la quête de pouvoir des hommes, soit par un désir inhérent de conquête et de domination, soit par un objectif purement pratique, accéder à des sources de satisfaction physique, à la sécurité ou au succès reproductif. Les conclusions de Gross, confirmées empiriquement tout au long du siècle suivant, suggéraient qu'il y avait peut-être quelque chose de plus simple derrière ce que Nietzsche appelait la volonté de puissance. L'enfant comprend qu'il existe comme une entité distincte, séparée du monde qui l'entoure, lorsqu'il prend conscience que c'est lui qui vient de provoquer une action, la preuve étant qu'il peut la faire se reproduire. Surtout, il peut aussi ne pas la faire se reproduire. Pour cette raison, Gross assimile la joie correspondante au sentiment de liberté. Autre point capital, cette prise de conscience est dès le départ associée à une délectation particulière qui restera l'arrière-plan fondamental de toutes les expériences humaines ultérieures. Nous oublions parfois que notre perception de nous-mêmes s'ancre dans l'action. Quand nous sommes totalement plongés dans une activité, courir un marathon, résoudre un problème logique, surtout si c'est quelque chose que nous savons très bien faire, nous finissons par nous confondre avec ce que nous faisons et nous en oublions que nous existons. Pourtant, même dans ces cas-là, cette joie d'être cause, fondatrice, reste implicitement la base de notre être, comme au premier jour. Gross se demandait pourquoi les humains jouent à des jeux et se passionnent autant pour les résultats, bien qu'ils sachent pertinemment que gagner ou perdre ne fait aucune différence au-delà du jeu lui-même. Il interprétait cette tendance à la création de mondes imaginaires comme une simple extension de son principe central, la joie d'être cause. C'est possible. Mais nous nous intéressons moins ici aux cas de développement sain qu'aux situations où les choses se passent mal, voire très mal. Ainsi, comme l'ont révélé diverses études, les conséquences sont dramatiques lorsqu'on permet à un enfant de découvrir et d'expérimenter le plaisir d'avoir un impact sur ce qui l'entoure, puis qu'on lui confisque brutalement ce pouvoir. À la rage et au refus de s'impliquer, succède une sorte de repli catatonique sur soi et de retrait total du monde. C'est ce que le psychiatre et psychanalyste Francis Broussek a appelé « le traumatisme de l'échec à influencer ». Selon lui, de nombreux problèmes mentaux ultérieurs pourraient être liés à de telles expériences traumatiques. Si tout cela est vrai, on commence à entrevoir les effets dévastateurs possibles du piège des jobs à la con. Ce sont des jobs où l'on vous traite comme si vous étiez utile et où vous êtes censé faire semblant de croire que vous l'êtes, tout en sachant parfaitement qu'il n'en est rien. Ce n'est pas seulement une agression contre votre ego. Cela ébranle les fondations même de votre sentiment de soi. Un être humain privé de la faculté d'avoir un impact significatif sur le monde cesse d'exister.